Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au téléphone, aujourd'hui, nous sommes avec Laurence Petit. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Petit, vous êtes membre du comité de soutien de Vincenzo Vecchi, qui est actuellement en attente de procès. Et on peut raconter un peu ce qui s'est produit depuis le départ.
Oui, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'en fait, maintenant, on amorce le 14e mois de lutte du comité de soutien, des comités de soutien et de tous les soutiens à cette cause. Donc je pense que c'est important de rappeler un petit peu le contexte et l'histoire. Je vais vous emmener en fait 19 ans en arrière au contre-sommet du G8 de Gênes les 19, 20 et 21 juillet 2001. Où il y avait 300 000 personnes qui scandaient un slogan « Un autre monde est possible » et en fait qui se sont heurtées à une répression féroce, préméditée et organisée, on peut dire militairement, avec des policiers qui seront accusés ensuite de faux, d'usage de faux, de torture, d'assassinat d'un manifestant, Carlo Giuliani, qui avait 24 ans, qui est mort, qui a été tué à bout portant. La Cour des droits de l'homme, Amnesty International ont condamné la police. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes ces exactions de la police, en fait, ils ont été condamnés, mais les policiers n'ont jamais fait une seule journée de prison. Ils ont été amnistiés, certains même ont été promus. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été amnistiés ? Parce que ça peut paraître un peu aberrant. En fait, simplement parce que le principal acte qu'ils avaient commis, c'était des tortures dans deux endroits, l'école Diaz et la caserne Bolzaneto. Mais la torture en 2001 n'était pas reconnue comme un acte condamnable. En Italie, elle ne l'a été qu'en 2016. Et c'est en 2016 qu'à ce moment-là, effectivement, on a pu considérer qu'il y avait eu ce délit, ce crime. Vincenzo Vecchi faisait partie des 300 000 personnes. C'était des jeunes qui venaient un peu de partout en Europe. Lui était italien. Il faisait partie de ces 300 000 personnes qui ont manifesté pendant deux jours et qui ont été sévèrement, monstrueusement réprimées. En 2012, la justice italienne, après 10 ans de procès, a condamné Vincenzo Vecchi à 12 ans et 6 mois de prison. Il fait partie de ce qu'on appelle les 10 de Gênes. À eux 10, ils ont eu 100 ans de peine de prison. En fait, ils ont été condamnés sous l'acte d'accusation dévastation et saccage, qui est une loi qui date de 1930, qui a été promulguée par le ministre Rocco sous le régime fasciste de Mussolini, et utilisée pour réprimer ces manifestations pour la première fois. En fait, c'est la première fois que cette loi ressurgissait des tiroirs pour condamner les gens. Alors, c'est pas une loi, c'est une loi fasciste, d'origine fasciste, et elle est assez délirante, car en fait, et là, je veux que les gens aient bien ça en tête, la simple présence sur des lieux de manifestation publique, au cours desquels il y a des débordements, la résistance à l'intervention de la police, ou simplement le fait d'inciter par des slogans, ou simplement le fait de ne pas quitter les lieux, peut vous faire encourir des peines allant de minimum 8 ans à 15 ans. Ça a été le cas notamment de Vincenzo Vecchi, qui a écopé de 12 ans et demi de prison. Je voudrais vous lire par exemple un extrait de l'acte d'accusation de Vincenzo Vecchi, l'acte d'accusation du procès en 2012 en Italie. « La présence au premier rang, au spectacle de l'incendie d'une voiture, est un comportement décidément incompatible avec quelqu'un qui ne serait là que par simple curiosité et désigne de toute évidence quelqu'un qui est là pour concourir au délit. » Voilà les preuves sur lesquelles Vincenzo Vecchi a été condamné et a eu une peine de 12 ans et demi de prison. En 2016, la justice italienne... Enfin, il faut revenir un petit peu sur la chose, qu'en 2012, Vincenzo Vecchi, sachant de quoi va être fait le procès définitif et la peine qu'il encourt, il décide de quitter l'Italie, il s'enfuit et il va aboutir à Rochefort-en-Terre. En 2016, la justice italienne émet à l'encontre de Vincenzo deux mandats d'arrêt européens. Et l'accumulation de ces deux mandats ayant pour objectif d'alourdir le dossier et de motiver l'arrestation. Le 8 août 2019, Vincenzo Vecchi, qui habitait sur le territoire de Rochefort-en-Terre, qui travaillait sur le territoire de Rochefort-en-Terre, qui avait des amis, des copains, des gens qui l'entouraient, il est arrêté en vertu de ces deux mandats d'arrêt européens aux abords du village de Rochefort-en-Terre et il est immédiatement incarcéré à la prison de Rennes. Plus de 70 personnes, c'est-à-dire nous tous, en fait, on était proches de Vincenzo. On tombe des nues quand on apprend qu'il est arrêté. L'un d'entre nous était sur place au moment où les policiers, au nombre de 12, l'ont arrêté. L'ont entouré de 6 voitures, sont descendus et l'ont arrêté arme à la main. Pas lui, eux, les policiers. Donc l'un d'entre nous a assisté au spectacle et a immédiatement prévenu les autres en disant « Je viens de voir un truc absolument invraisemblable. » Vincenzo embarqué par les flics avec une ampleur, un déploiement de forces de l'ordre absolument énorme. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où il est emmené, mais il faut bouger, etc. Donc immédiatement, on se bouge, on contacte les gendarmes locaux, etc. On ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas du tout pourquoi. On contacte les gendarmes locaux qui nous disent « Écoutez, nous, on n'est au courant de rien. Ce monsieur n'a jamais rien fait sur le territoire. On ne comprend pas ce qui se passe. » Et donc, du coup, on s'affole et on cherche immédiatement un avocat. Et cette recherche d'avocat, on va trouver une avocate qui va se renseigner, qui va nous rappeler en lui disant « Si, je sais où il est. Il est à la maison d'arrêt de Rennes et il va être incarcéré à Vézin-le-Coquet, qui est une prison à côté, aux alentours de Rennes. » Et à ce moment-là, elle va nous mettre, on va pouvoir échanger par son intermédiaire avec Vincenzo, qui bien sûr ne peut pas être visité ni quoi que ce soit. On va créer le comité de soutien dès le 10 août, c'est-à-dire dès le surlendemain de son arrestation. On est tout de suite plus de 70 personnes et on va vraiment mettre en commun tous nos moyens, toute notre intelligence, toutes nos capacités, toutes nos relations de toutes sortes pour faire en sorte que notre copain, notre ami soit soutenu et comprendre ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est par l'intermédiaire des avocats qu'on va apprendre qu'il a été arrêté sous l'inculpation de deux mandats d'arrêt européens. Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, un mandat d'arrêt européen, je vais l'apprendre à ce moment-là, et je vais apprendre de quoi il est inculpé. On va apprendre qu'il est inculpé et qu'il a pris 12 ans et demi de prison pour la manifestation, pour sa participation à la manifestation de Gênes en 2001. On va apprendre qu'il y a un deuxième mandat d'arrêt européen à son encontre à propos de la présence à une manifestation antifasciste qui avait lieu à Milan en 2006, ou 2007, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2006, et qui, en fait, c'était il y a une manifestation, les gens se sont réunis et ont manifesté parce qu'il y avait une manifestation fasciste de Fiamme Tricolore qui, ce jour-là, se déroulait à Milan, autorisée, ce qui est absolument hallucinant, autorisée en Italie, alors que le fascisme, comme vous le savez, est interdit et poursuivi depuis la fin de la guerre. Mais bon, bel et bien, la manifestation fasciste avait lieu et donc il y a un certain nombre de gens qui sont descendus dans la rue pour manifester contre cette manifestation et qui ont été à une vingtaine nassés dans une cour d'immeuble et embarqués et mis en prison immédiatement. Et donc on apprend que ces deux faits, le mandat d'arrêt de Gênes et le mandat d'arrêt de Milan, qui font que Vincenzo est sous les verrous. Alors, je voudrais rappeler peut-être, c'est peut-être un petit peu, Yves, dites-le-moi, mais j'ai peut-être l'impression que c'est un peu ardu. Pourtant, je pense que c'est important de savoir en quoi consiste un mandat d'arrêt européen. Nous, on l'a appris et c'est vrai que ça nous a été très utile parce que quand Vincenzo Vecchi a été arrêté, et on lui avait donc trouvé immédiatement des avocats avec lesquels on a pu converser, mais il lui a été demandé par les gens qui l'ont arrêté, par la police, il lui a été demandé s'il voulait un avocat en Italie. La réponse, Vincenzo parle français, mais bon, c'est pas un as, je dirais, du langage juridique. Et en fait, il n'a pas eu droit à avoir à ce qu'on appelle la double défense. il n'a eu droit qu'aux avocats qu'on lui a trouvés en France et pas d'avocats en Italie. Ce qui veut dire que c'est nous, le comité, qui avons dû faire ce travail d'échange avec, de trouver les avocats italiens qui correspondaient à ces procès, de converser avec eux, de rechercher les pièces, de fournir les pièces, de traduire les pièces, de les donner aux avocats français, etc., etc. Or, ce mandat d'arrêt européen, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une procédure qui est très administrative, je dirais, entre deux États, pour livrer des gens qui sont recherchés ou condamnés. Au début, ça a été créé, tout à fait au début des années 2000, les mandats d'arrêt européens ont été créés pour le grand banditisme et les mafieux. Aujourd'hui, c'est appliqué même pour des délits mineurs. Et en fait, le mandat d'arrêt européen, ça repose sur une confiance mutuelle entre procureurs des deux pays concernés. Le procureur du pays qui reçoit le mandat d'arrêt européen, en fait, c'est-à-dire la France en ce qui concerne Vincenzo, étant obligé de croire sur parole son alter ego et n'ayant pas les moyens de vérifier la véracité et l'exactitude des faits incriminés. Et en fait, on va s'apercevoir que, justement, le procureur, enfin, la justice italienne va, je vais parler par euphémisme, va être très inexacte, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas parler de mensonge, mais on pourrait parler de mensonge, et je parle de mensonge. Par exemple, le mandat d'arrêt européen de Milan va vite apparaître comme un mensonge délibéré, la peine ayant été déjà intégralement purgée. Une peine de un an ayant été intégralement purgée depuis 2009. Donc la justice italienne ne pouvait pas ne pas le savoir. Et elle a rajouté ce mandat pour charger la mule, pour faire apparaître Vincenzo Vicchi comme un dangereux récidiviste. Le rôle du comité de soutien va donc être de pallier l'absence de double défense de Vincenzo. Et c'est nous qui allons faire, c'est le comité qui va faire ce travail et qui va faire la lumière sur les inexactitudes, sur les mensonges, sur ce qu'on peut appeler les manipulations de la justice italienne. Ça va permettre le 24 août à la Cour de Rennes d'accepter de différer la remise de Vincenzo Vecchi aux autorités italiennes et de demander à l'Italie un complément d'information. Il faut savoir qu'un mandat d'arrêt européen, la personne est arrêtée et dans les 15 jours, en général, elle est remise à la justice du pays qui en fait la demande. Là, le 24 août, donc déjà 15 jours après son arrestation, on va obtenir le délai supplémentaire et la demande à l'Italie d'un complément d'information. Le 10 octobre, c'est la date limite d'ailleurs pour qu'elle le fasse, la justice italienne va donner ces compléments d'information sous deux formes. Elle va envoyer quelques compléments dérisoires pour le mandat de Gênes. Il manquait tout simplement, c'est une broutille, il manquait la référence au dernier procès, c'est-à-dire le procès en cassation de 2012. Donc ça, elle va l'envoyer. Elle n'envoie rien de plus. Et en revanche, elle reconnaît sans aucune vergogne avoir émis un mandat injustifié pour Milan avec cette phrase textuelle « Oui, nous le savions bien ». Mais nous l'avons rajouté pour que vous compreniez bien qui était Vincenzo Vecchi et que vous compreniez aussi que comme il avait pour Milan bénéficié d'une remise de peine, il ne pouvait pas en être de même pour le procès de Gênes. Le 15 novembre 2019, la Cour d'appel de Rennes va libérer Vincenzo Vecchi au motif de l'irrégularité de la procédure d'exécution des mandats d'arrêt européens. Elle va déclarer enfin sans objet le mandat d'arrêt européen de Milan, puisque la peine a été intégralement purgée dès 2009. Elle va quand même passer sous silence la machination que constitue cette émission et la déloyauté, on peut parler de déloyauté, de la justice italienne vis-à-vis de la France. Mais bon, voilà, on passe muscade, on vous dit que le mandat d'arrêt européen de Milan n'a pas lieu d'être, ok, et on passe à autre chose. Le mandat d'arrêt européen, lui, il est invalidé pour vice de procédure. C'est sur les vices de procédure que la Cour d'appel de Rennes va se prononcer et déclarer la libération de Vincenzo Vecchi. Le ministère public, le procureur, lui, va pas se contenter du tout de ça. Et donc, dès le 18 novembre, il va se pourvoir en cassation, nous obligeant, nous, la défense, à aller également en cassation. On va aller en cassation. C'était le vice de procédure en question, c'était l'absence de double défense. Et en fait, il va y avoir une espèce de truc un peu hallucinant. Moi, j'étais présente à la Cour de cassation quand il y a eu ce jugement. Et c'est assez fou parce que l'avocat de cassation qu'on avait a vraiment fait un énorme travail pour montrer que le vice de procédure existait bel et bien. Et en fait, les juges de cassation de Paris n'ont absolument pas tenu compte de ça et ont cassé le jugement de Rennes en déclarant il faut recommencer, on déplace l'affaire à Angers, ce sera plus à Rennes mais ce sera à Angers, et on recommence le procès en appel. qui est essentiel, c'est de noter que la Cour d'appel de Rennes n'a jamais examiné l'ensemble des points présentés par la défense. Et s'est arrêtée au premier point, jugeant celui-ci suffisant pour casser le mandat d'arrêt européen. C'est quelque chose qui est, assez classique, c'est-à-dire que si effectivement il y a un point qui fait sens et qui montre qu'il y a une exactitude au niveau procédurial, on peut effectivement, la Cour peut s'arrêter là et dire, ben voilà, ça suffit pour casser le mandat d'arrêt européen. Notre crainte à nous, c'est que cela se reproduise devant la Cour d'Angers et que tous les arguments développés par la défense ne soient pas étudiés à fond et pris en compte. Et pourtant, les deux points de fond qui sont essentiels selon nous, c'est le fait que d'abord la peine est complètement délirante et totalement disproportionnée. L'un des soutiens qui fait partie du comité de soutien de Vincenzo, c'est l'écrivain Éric Vuillard, et qui l'a très bien dit. Il a dit cette peine de 12 ans et demi de prison, c'est une peine délirante, c'est une peine qui est faite pour terroriser. Elle est totalement disproportionnée par rapport aux faits, par rapport aux actes dont on accuse Vincenzo. Donc ça, c'est un premier plan. C'est effectivement ce côté disproportionné. 12 ans et demi en France, c'est un crime de sang. C'est une atteinte à la personne, alors que Vincenzo, ni personne parmi les manifestants à Gênes, n'a commis d'atteinte aux personnes. Les atteintes qui ont eu lieu, ce sont des atteintes à des biens matériels. 12 ans et demi, d'abord, faudrait-il que la preuve soit faite, ce qui n'a pas été le cas, que Vincenzo a participé réellement à ces atteintes aux biens matériels. Mais quoi qu'il en soit, 12 ans et demi pour avoir créé une barricade ou cassé une vitrine, etc., c'est complètement délirant. Et encore, je rappelle que de toute façon, Vincenzo, ça n'est pas le cas. Donc, on est bien dans le cas, je dirais, d'une accusation qui est délirante en termes d'années données pour la peine. L'application d'un mandat d'arrêt européen prévoit 32 cas de remise automatique. Et quand ce n'est pas le cas, comme pour Vincenzo, le procureur doit fournir des équivalences de délits au moment des faits. Or, au moment des faits, il n'existait pas en France de loi équivalente à dévastation et saccage. Ça n'existait pas. En France, je le rappelle, je viens de le dire, une peine de plus de 12 ans de prison, elle correspond à un crime, alors que pour Vincenzo, il s'agit d'avoir participé à une manifestation. Depuis sa libération, c'est-à-dire depuis le 15 novembre, Vincenzo vit et travaille sur le territoire de Rochefort-en-Terre, mais il ne faut pas oublier qu'il reste partout en Europe sous la menace de ses deux mandats d'arrêt européens, y compris celui de Milan, qui pourtant a été enfin reconnu par les deux États comme nul et non avenu, mais qui continue à être dans la besace de tous les autres pays européens. Dès son arrestation, l'injustice flagrante que subit Vincenzo a provoqué une vive réaction dans son village et au-delà. Il y a eu le premier comité de soutien créé à Rochefort-en-Terre avec 70 personnes à peu près dès le surlendemain de son arrestation. Mais de nombreux autres comités de soutien se sont créés à Paris, à Nantes, à Rennes, à Marseille, à Brest et puis dans d'autres villes françaises, mais aussi à Milan, à Séville. Et très récemment, plus récemment, c'est-à-dire à partir de janvier, un très actif comité de soutien s'est mis en place à Angers, dans la perspective du prochain jugement qui doit avoir lieu dans cette ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce prochain jugement, il devait avoir lieu fin mars. La Covid a évidemment annulé cette première date. La deuxième date connue, ça a été le 12 octobre, qui nous a été communiquée vers la mi-août. Et puis, début septembre, on nous a dit « Ah ben non, ce ne sera pas le 12 octobre, ce sera sans doute avancé au 2 octobre ». Là, ce matin, des membres du comité sont allés voir les avocats et en fait, on a appris que vraisemblablement, nous n'aurions la confirmation de la date que 48 heures avant l'audience. Donc, c'est peut-être quelque chose qui se fait, mais c'est vrai que pour les comités, et pour Vincenzo encore plus, évidemment, c'est extrêmement difficile. On suppose que la date d'audience sera le 2 octobre, mais nous n'en aurons confirmation sans doute que 48 heures avant. Et l'heure, évidemment, de même, sera communiquée 48 heures avant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des soutiens importants qui sont apportés par de nombreuses personnalités issues de la représentation nationale, que ce soit des députés, des sénateurs, les membres de la Ligue des droits de l'homme. ils se sont très rapidement mobilisés. Dès l'automne dernier, ils se sont mobilisés.
Ce sont des personnalités qui s'affirment et qu'on peut connaître?
Absolument. D'abord, il y a eu une conférence de presse qui a été organisée par des députés et des sénateurs, qui a été organisée dans les locaux de l'Assemblée nationale, si je ne dis pas de bêtises, c'était le 18 janvier dernier, en présence de Pierre Laurent, en présence de Pierre Dharréville, de Paul Molac, de Joël Labbé. Il y avait aussi des membres de France Insoumise, etc. Actuellement, il y a une lettre, une adresse au garde des Sceaux qui circule en étant signée. Je crois qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de signatures de députés, de sénateurs et de personnalités de la représentation nationale qui sont en train de se faire. Et donc, elle va être envoyée dès que les signatures seront en grand nombre, mais qui sera complétée ensuite s'il y a d'autres signatures qui arrivent. On avait envisagé une conférence de presse au Sénat ces dernières semaines. En fait, c'était quand on a su que c'était avancé au 2 octobre, ça a complètement fait tomber les choses. Ça devenait trop compliqué à organiser. En revanche, ils sont toujours présents et très, très actifs et très, très utiles. Je veux dire, on a vraiment besoin de se serrer les coudes et d'être motivés tous ensemble et mobilisés.
Laurence Petit, comment êtes-vous arrivée à cette implication pour le comité de soutien de Vincenzo Becchi?
Je crois que c'est vraiment la personnalité de notre ami Vincenzo qui a créé la chose. Ça faisait 8 ans qu'il habitait parmi nous. Nous, on ne connaissait pas son histoire antérieure à sa venue à Rochefort-en-Terre. Mais en revanche, il faisait partie du réseau, je dirais, des gens autour de nous pour qui on avait de la sympathie. C'est un musicien, donc il faisait partie de plusieurs groupes de musique ici. Il se trouve qu'il y a un café associatif à Rochefort-en-Terre dans lequel il y a besoin toujours de bénévoles, etc. Très vite, il s'est impliqué dans ce café. C'est un territoire, le territoire de Rochefort-en-Terre. Quand je parle de Rochefort-en-Terre, c'est un territoire élargi, je dirais, sur une cinquantaine de kilomètres de diamètre. C'est un territoire dans lequel il y a beaucoup de gens qui arrivent, souvent des villes, qui en ont un peu assez d'habiter en ville, qui en ont un peu assez des métiers du tertiaire dans lesquels ils sont allés et qui ont envie, beaucoup de jeunes d'ailleurs, moi c'est pas mon cas, je suis retraitée, je suis venue ici parce que j'étais à la retraite, mais il y a beaucoup de jeunes qui quittent la ville, qui décident de changer un peu de vie, qui mettent en place des projets alternatifs, etc. Je crois que c'est sans doute la raison pour laquelle il a choisi de s'arrêter sur notre territoire. C'est un territoire qui est ami et accueillant. L'accueil se fait tout naturellement, je dirais, sur ce territoire. Donc je pense que c'est pour ça. J'en ai jamais discuté avec lui parce que la question ne s'est pas trouvée. Pourquoi on s'est mobilisé? Parce que le personnage était quelqu'un qui impliquait beaucoup de gens et pour lequel les gens avaient beaucoup d'amitié et beaucoup de choses en commun. Mais au-delà de ça, je dirais que la mobilisation, elle s'est faite sur la cause elle-même, au-delà de Vincenzo, la cause elle-même, que la France puisse accepter de renvoyer quelqu'un qui a été inculpé sur la base d'une loi fasciste, d'origine fasciste et reconnue comme telle, qui viendrait à ce moment-là faire jurisprudence en France et en Europe, qu'on puisse être condamné à 12 ans et demi de prison pour avoir manifesté, ça fait froid dans le dos. Moi, en ce qui me concerne, je comprends quand Éric Vuillard dit c'est une peine délirante, c'est une peine qui est faite pour terroriser. Bah oui, moi, ça me terrorise. Ça me terrorise. Dans ma vie, il m'est arrivé de manifester sur des causes qui me semblaient justes. Si j'avais su que je risquais 12 ans et demi de prison, peut-être que je serais resté tranquillement chez moi. Ça veut dire que ça met fin à la mobilisation, ça met fin à la possibilité aux gens, au droit de manifester, ça met fin au courage de pouvoir descendre dans la rue et dire non. Voilà, je crois que c'est aussi pour tout ça. C'est au-delà de Vincenzo lui-même, je pense que cette cause nous a semblé et nous semble toujours plus que juste, indispensable. Je me souviens qu'Éric Vuillard avait dit au cours d'une des conférences de presse, il avait dit « Si nous n'avons pas le courage de dire non, comment aurons-nous encore le courage de nous regarder dans la glace ?» Ben oui, voilà, c'est mon cas. Et je pense que c'est le cas de tous les gens qui font partie des comités de soutien.
Par ailleurs, au début de l'émission, vous parliez de cette arrestation, la dernière du moins, opérée en France. Est-ce que vous avez su quel corps de police avait procédé à l'interpellation ?
Oui, absolument. absolument. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que le terme exact, mais je crois que c'est ce qu'on appelle la brigade dédiée aux fugitifs. C'est-à-dire que c'est une brigade qui a en principe à affaire à des gens qui sont sous le coup d'inculpation de crimes ou de grand banditisme, etc. Ce qui est le cas, hein, ça correspond au mandat d'arrêt européen, initialement quand ils ont été créés au début des années 2000. Aujourd'hui, ça peut être appliqué à des peines légères, mais à ce moment-là, c'est le cas. Ce qui explique sans doute le fait que l'arrestation, moi, j'y étais pas présente, hein, mais par contre, les gens qui ont assisté ont été absolument affolés. Je crois qu'il y avait 12 policiers armés jusqu'aux dents, en 6 voitures différentes. Je crois que c'était... effectivement, je crois que c'est ça, brigade de recherche des fugitifs ou d'interpellation des fugitifs. Le terme ne me revient pas très exactement, mais je pourrais le retrouver et vous le donner.
Est-ce que pour vous, comme on prétend en France que la justice est indépendante, mais est-ce que vous pensez, à titre personnel ou dans ce que vous êtes au niveau du comité de soutien, est-ce que la justice est-elle vraiment indépendante vis-à-vis du pouvoir ?
Alors, ma réponse d'abord n'engage que moi, Laurence, hein, c'est clair. En fait, ma réponse, elle va être à deux niveaux. Je pense que la Cour de Rennes, les juges, je pense qu'ils ont fait leur boulot correctement et je pense qu'ils ont été, autant que ce soit possible, indépendants et qu'ils ont remis leur décision de manière indépendante. Je le crois, c'est quelque chose dont on a discuté avec les avocats, dont on a discuté avec une amie à nous qui est une ancienne magistrate et effectivement je suis convaincue de ça. En revanche, quitte à m'en faire un ennemi et quitte, je ne sais pas, je ne voudrais pas non plus être diffamatoire, mais je crains, alors je crains que le procureur, que les procureurs, celui de Rennes, celui d'Angers, ne soient peut-être pas totalement exempts de crédulité à l'égard de leurs homologues italiens. J'en veux pour preuve le mandat d'arrêt européen concernant Milan. Je sais, on n'en parle plus, c'est annulé, etc. Mais enfin, il faut quand même bien se rendre compte que quand Vincenzo est passé dans son premier jugement, c'était le 14 août, c'est-à-dire une semaine après son arrestation, le procureur à l'époque a dit, voilà, je vous présente M. Vincenzo Vecchi, inculpé sous 2 mandats d'arrêt européens, et il a immédiatement développé celui de Milan. Et il a dit, oui, alors il est vrai que le mandat d'arrêt européen concernant Gênes me semble pas totalement complet. Il faudrait peut-être effectivement demander des compléments d'information à nos confrères d'Italie, parce qu'il semblerait qu'ils soient un peu légers. Même la quantité de pages est assez légère. Il nous manque sans doute un certain nombre d'informations. En revanche, le mandat d'arrêt italien concernant Milan me semble parfaitement en ordre et complet. Et sur cette base, je demande donc à la Cour de renvoyer M. Vecchi en Italie. Voilà ce qui s'est passé. Voilà textuellement ce qu'a dit le procureur de Rennes à l'époque de ce procès du 14 août 2019. Ça veut dire que si la défense, les avocats n'avaient pas à faire leur boulot en disant « Attendez, nous, on n'est pas d'accord, parce que le mandat d'arrêt européen de Milan ne nous semble pas du tout aussi clair que ça », on était à quelques jours de l'arrestation. C'était pas facile de pouvoir déjà avoir ce soupçon. Mais ça a été fait. On a dit « Nous, on n'est pas d'accord, ça ne nous semble pas si clair que ça, on demande aussi un complément d'information concernant Milan ». Et donc, c'est là que la Cour a dit « Ok, on demande un supplément d'information, on diffère le renvoi et on demande un supplément d'information ». Et bien nous en a pris, puisqu'effectivement, il s'est confirmé ensuite, après de nombreux allers-retours téléphoniques avec les avocats italiens, que le mandat d'arrêt européen pour Milan était totalement nul et non avenu. Ça veut dire que la justice italienne avait bel et bien commis un faux, elle l'a reconnu d'ailleurs, hein, puisqu'elle a dit « Oui, on le savait bien ». Ça veut dire que le procureur français de Gênes, de Rennes, a pris pour argent comptant ce que lui racontait son homologue italien et s'est engagé là-dessus. Qu'est-ce qui serait passé si Vincenzo avait été réellement envoyé à ce moment-là ? Ça veut dire qu'il aurait été renvoyé en Italie sur la base d'un mandat d'arrêt européen qui était nul et non avenu. Ben moi, en tant que procureur, je ne serais pas fier de moi dans ces cas-là.
On va donner des coordonnées de manière à vous soutenir pour ce comité de soutien.
Oui, je pense que c'est important pour nous soutenir et puis je pense s'informer un peu plus. Il y a le site du comité qui est un site qui est bien fait, qui est très complet, où vraiment toute l'histoire de cette lutte est retracée. C'est www.comité comité-soutien-vincenzo.org ou bien le site Facebook Soutien Vincenzo. Il y a également une chose que vous pouvez faire pour nous qui est importante. Il y a actuellement deux vidéos qui circulent, sur Facebook, qui circulent également sur le site du comité, qui circulent également sur YouTube. Il faut qu'elles circulent le plus possible. Il faut qu'elles deviennent comme... Alors, je ne connaissais pas le terme, mais je viens de l'apprendre.
Ce sont des...
qu'elles deviennent virales. Donc, envoyez-les sur vos réseaux.
Ce sont des vidéos.
Il y en a qui s'appelle « Nous devons tous avoir le courage de dire non ». Et il y en a une autre qui s'appelle « Analisi de un reato politico ». Analyse d'un fait politique.
Ce sont des vidéos qui ont été réalisées par qui ?
Alors, « Analisi di un reato politico », c'est une vidéo italienne faite par un avocat italien. Elle est vraiment particulièrement intéressante, utile. Je peux peut-être vous donner l'adresse, mais c'est un peu compliqué, parce que je crois que c'est mieux que vous alliez sur le site de notre site internet et vous retrouverez l'adresse. L'autre vidéo, elle a été faite par nous. On a repris la chanson du galérien d'Yves Montand, et avec d'autres paroles qui disent « Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il a manifesté, depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées ?» Et puis on raconte l'histoire, on met des images sur Gênes, qui sont des images fortes, qui sont des images choquantes, mais des images qui sont nécessaires de voir. Et puis on raconte un petit peu les faits, on déroule un petit peu les faits. Voilà.
Est-ce que pour vous, l'image reproduite, distribuée, partagée sur les réseaux permettent de raviver l'émotion qui était réellement sur le terrain ?
Oui, je pense que l'émotion est toujours là et qu'on peut parfaitement la continuer à la... Ben, pour moi, si vous voulez, mon ami Vincenzo, il a 46 ans, il est toujours sous le coup de 12 ans et demi de prison. On sait très bien que cette peine ne sera pas réduite, il n'y aura pas de baisse de peine, donc de remise de peine. Pour moi, c'est complètement fou que notre ami puisse se retrouver en prison pour 12 ans. C'est pas possible, quoi. L'émotion, elle est forcément là.
Laurence Petit, je vous remercie de nous avoir donné du temps pour la cause de Vincenzo Vecchi et je vous souhaite une bonne fin de journée.
D'accord, je vous remercie à vous d'avoir fait cette démarche.
Au revoir.
Au revoir.
Through the mystery, to the Mussolini, to the Mussolini, and cake.